un autoritaire et se solidarise avec les enseignants convoqués en conseil de discipline et menacés de lourdes sanctions. La liberté pédagogique ne se négocie pas. Vive l'autogestion.
Putain, qu'est-ce qu'on avait, la haine, la colère, des pavés dans les mains et le soleil au front. En face, il y avait les flics et planqués loin derrière. Jusqu'à l'horizon. D'accord, qu'est-ce qu'on pouvait contre les bulldozers?
La musique.
Carabanana maximum.
Ta gueule,
ta gueule. Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour
vive mon pain,
vive le soleil.
Vive les oreilles.
Libre.
Yeah.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4 en région parisienne, partout ailleurs dans le monde, partout ailleurs dans le monde, à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres sur Radio Libertaire, donc, et aujourd'hui nous recevons la pianiste, compositrice, improvisatrice Ève Risser. Bonjour Ève.
Bonjour Radio Libertaire.
Très heureux, très 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 content de te retrouver. Tu es déjà venu à plusieurs reprises. Alors, je parlais du Burkina Faso, mais hélas, Oumarou Bambara ne sera pas présent.
Hélas, il est vraiment très malade. Il m'a appelé tout à l'heure. Il a chopé un truc hier, il est courbaturé. Et il s'excuse et il était tellement content de venir parler de son travail aussi. Oumarou qui est un musicien de cet orchestre, mais bon, c'est vraiment un grand frère parce que j'ai vraiment plutôt commencé à toucher à un instrument traditionnel avec lui. C'était mon prof de balafon. Il est plus âgé, il a énormément d'expérience, il a déjà fait beaucoup de groupes, beaucoup de pédagogie. Ça fait longtemps qu'il vit en France, il donne des cours, il fait aussi beaucoup de percussions avec les percussionnistes au parc de la Villette. C'est une figure pour nous ici. Et donc Oumarou va jouer aussi avec sa classe après le spectacle mardi. Parce qu'on va parler de tout ça.
Oui,
mais
on va parler de ça. Ah, super.
Voilà, il va venir donc avec des élèves, ils vont présenter des rythmes qu'ils ont bossés. Pour nous, en after, parce qu'au théâtre Sylvia Montfort, il y a une terrasse, s'il fait moche, on a le resto aussi, le bar qui est cool. Et aussi, il est en train d'enregistrer un album, parce qu'il remonte son groupe Kankélé.
Ah, mais oui.
Et voilà, et on voulait parler de tout ça aujourd'hui, donc on lui rend un bel hommage et on lui dit de guérir vite, parce que les concerts arrivent.
On le salue, on l'embrasse, Oumarou Bambara, et puis une prochaine fois, j'espère. Ah oui, alors effectivement, tu as un peu anticipé sur plein de choses dont on va parler, à savoir les concerts à Sylvia Montfort de Eurythmia. Mais peut-être, c'est vrai que je l'ai dit, tu es venu quand même un certain nombre de fois maintenant depuis pas mal d'années dans notre émission. Mais peut-être les auditeurs, les auditrices n'ont jamais écouté. Il convient de te présenter quand même un petit peu. Alors, tu joues du piano. J'ai vu que tu jouais de la flûte aussi. Quel a été ton premier instrument?
Alors, dans ma famille, on faisait tous du piano comme initiation à la musique. Mmh. Et après, on choisissait un instrument d'orchestre. Et moi, j'ai choisi la flûte, mais j'ai jamais voulu lâcher mon instrument d'initiation. Ouais. Donc, je suis restée keblo dans les deux, comme ça, pendant plusieurs décennies. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai fini par faire de l'orchestre avec mon piano. Et ça, c'est la jolie moralité de l'histoire, alors, si je puis dire.
Bah oui, j'imagine que tu as eu au piano une formation classique. C'était où? C'était à Colmar?
Ouais, je suis née à Colmar. Ah ouais. J'ai grandi dans un vignoble qui s'appelle Turckheim, dans la vallée de Münster. Et donc il y avait des harmonies municipales, mais moi j'étais inscrite au conservatoire. Il y avait une passion musicale familiale qui était là. Je crois que tout l'argent passait là-dedans, et ça c'était très important pour mes parents et puis mes frères et sœurs. On est quatre, tout le monde faisait de la musique, tout le monde faisait de la musique de chambre ensemble, et pas toujours dans les bonnes conditions, hein, mais ça s'engueulait pas mal. Mais tout le monde joue toujours, ça fait plaisir.
Ah, super. Donc, il y a super jolie ville, hein, Colmar, avec les cigognes.
Mais non, c'est trop moche, c'est une ville
Colmar.
C'est un peu kitsch.
Ah,
c'est un peu surfait. Bon, moi, Je préfère aller dans les petits villages un peu plus.
Ah, qui sont super, ouais.
Un petit peu plus dans le jus.
Le truc en rond, là.
Dans son jus. Tu vois. Mais non, mais bon, c'est un côté. Bon, c'est hyper touristique, hein, ça,
ah,
c'est
d'accord.
Sûr.
Ah, oui, oui, d'accord. Ok, ok. Bon, alors, c'est pas ça que je voulais te demander. Je voulais te demander.
L'office du tourisme sera content.
Bah oui. Voilà, mais il n'est pas question de ça. Il est question de ta formation. Elle a été classique, je pense, mais comme tous les jeunes qui apprennent à faire de la musique, notamment au piano. Mais quel a été ton parcours pour arriver au jazz contemporain ?
Ouais, ça c'est intéressant comme question, parce que finalement, ce que j'en retire aujourd'hui un peu, parce que j'ai tendance à conseiller s'il y a des jeunes qui me demandent et qui ne veulent pas forcément faire du classique étant adulte, je trouve que le classique, c'est un super moyen d'apprendre bien un instrument. Ouais. Le répertoire est fait pour bien poser ses doigts sur les instrus. Si on veut maîtriser un instrument dit occidental, tout ça. Ouais. J'ai trouvé que le jazz était une super école pour apprendre l'harmonie, en fait.
Ah ouais.
Parce qu'il y a quelque chose d'afro-américain aussi. On peut toucher à la soul, on peut jouer, on peut toucher au blues, on peut toucher au rock. En fait, avec le jazz, on a des ouvertures pour la pop aussi. C'est une approche de l'harmonie assez complexe, mais du coup, le reste paraît même simple. Et donc, j'ai trouvé ça super pour apprendre finalement le solfège, même si je l'avais appris en classique. Donc, moi, je recommande le jazz pour la formation de l'oreille, quoi, et de l'improvisation sur du rythme et de l'harmonie. Ensuite, j'ai trouvé que la musique contemporaine et l'improvisation, c'était un endroit génial pour apprendre à chercher des nouveaux sons sur son instrument. Pas les choses qu'on joue d'habitude conventionnellement sur un violon, sur une flûte, sur un piano, mais comment détourner, pas forcément en l'abîmant, parce qu'en fait, parfois on l'abîme, mais parfois on peut découvrir comment, sans l'abîmer, on peut faire tout un tas d'autres sons qui font beaucoup voyager l'auditeur. Et puis, finalement, il a bien fallu réinventer la virtuosité. Ouais. Hein, avant, on jouait vite et sportif pour faire virtuose. Enfin, moi, c'est la vision que j'en ai, et qu'aujourd'hui, ce que je trouve virtuose, c'est de faire croire à un autre instrument quand on joue. Enfin, ça, j'adore. Je trouve que c'est magique. Mmh. Et il y a un côté impressionnant, mais poétique, donc qui enlève l'aspect compétition allègrement. Après, l'idée, c'était... Une fois qu'on touche à tout, c'est qu'on se trouve c'est qu'on se trouve une identité. Et alors, moi, j'ai mis longtemps à trouver ce que j'aimais le plus faire avec mes copines, mes copains. Et maintenant que je me connais un tout petit peu mieux, parce que c'est vraiment pas fini, j'ai l'impression que je peux toucher à beaucoup plus de styles qu'avant, parce que enfin, tout ce que j'ai traversé, parce que je sais comment retourner à la maison, à l'intérieur me recentrer musicalement donc je peux enfin goûter à plein de musique traditionnelle, parce que je m'étais dit il y en a tellement que je vais m'y perdre, et je voulais tellement aller vers quelque chose d'innovant avec la musique. Enfin, il fallait que des trucs tout neufs, quoi. J'étais dans un truc de recherche, tout déconstruire et chercher que des trucs que j'avais jamais entendus. Mais ça n'existe pas, il y a tellement de gens qui le font.
Bien sûr.
Donc ce travail de déconstruction m'a aidé à au moins fabriquer ma cabane à moi, celle de mes potes. Et en même temps, maintenant, c'est un terrain de jeu pour tout jouer sans limite. Sachant que moi, je suis hyper limitée, donc je vais toujours retrouver un peu mes traces. Enfin, chacun à son... Voilà, en se mettant en danger quand même, mais en... terrain de jeu, partage, orchestre, pour moi tout ça c'est un truc qui ça me parle. Enfin, mais non, faire des équipes de foot, tu vois, mais faire des orchestres, faire des...
Alors t'as pas toujours fait ça, alors on va pas refaire tout ton parcours, hein, parce qu'on en...
parce qu'elle est vieille.
Ben non, il y a pas mal de trucs.
Ça y est, putain, j'ai des interviews comme pour les vieux.
Ah mais non, mais c'est pas ça. On a il y a quelques temps, pas très très longtemps finalement, on a déjà parlé de fenêtres ovales par exemple, ou de encore. Et alors, j'ai vu que...
Ça existe encore.
Ouais, ça existe encore, mais ça c'est... Ouais. Je me demandais en fait, je me souviens d'avoir vu il y a 2 ans ou 3, je ne sais plus, au festival Son d'hiver à Arcueil.
Bah c'était avant le Covid, je crois.
C'était avant le Covid, d'accord, ouais. Ah bah oui.
Peut-être en 19, quoi.
Je voulais limiter le nombre d'années, mais oui, effectivement.
Mais on a joué là il y a un mois.
Oui, c'est ça.
À Lisbonne. Okay. On a un groupe qui joue depuis une dizaine d'années, voire 12, et qui joue une ou deux fois par an.
Ouais. Moi, j'ai un album de 2012. Donc,
Ouais, on joue nous deux fois par an et c'est toujours magique et donc ça n'arrêtera jamais, je pense.
Il faut peut-être citer avec qui tu joues.
Ah oui, 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 bien sûr, on y vient. Donc avec Benjamin Duboc à la contrebasse et Édouard Perrault à la batterie.
Et donc, vous, c'est de l'improvisation hein, vous...
C'est de l'improvisation, mais on a une idée. Parce qu'en improvisation, une idée peut conditionner complètement la musique.
Ah ouais.
Et là, c'est comme si tu dis, je te fais un menu, mais maintenant je te dis, tu fais tout à base de gluten. Je veux dire,
ouais, d'accord, ouais.
T'es fixé. Ben, nous, on a une idée assez forte comme ça de gluten avec le trio. C'est qu'on lâche pas la balle pendant tout le concert. Enfin, je sais pas comment dire.
Écoute, là,
on a une idée qui est très proche de l'idée du désir. C'est la musique peut être très parfois très proche de l'acte sexuel, mais ça n'a rien de sexuel. C'est peut-être érotique ou plein de notions de désir, mais ça n'a rien de sexuel à proprement parler. Mais je pense qu'il y a ce truc de un peu tantriste quand même dans la musique qu'on essaye de faire. C'est un truc qui se dit pas, tiens, mais bon, j'ai craché le morceau là. Mais bah, bon.
Très bien. Bah, j'allais te le demander parce que moi, ayant vu ce concert que j'ai vraiment adoré, j'avais dit à Fabien Simon, je dis, oh là là, allez, on la claque. Et je m'étais demandé, mais c'est composé, c'est pas possible. Il me dit, non, c'est que tout est improvisé. Je suis, oh la vache, la cohérence.
Alors par contre, depuis la première fois qu'on a fait du son ensemble, ça a vachement fonctionné. Ouais. On était assez d'accord.
Ouais, ouais, ouais.
Et alors, on n'a jamais eu besoin de répéter parce qu'il y avait une évidence. Mais alors, cette évidence n'est pas venue de nulle part. C'est que Benjamin et Édouard jouaient déjà ensemble. Mmh. Et moi et Benjamin, on avait un duo depuis peu. Et on s'est dit, tiens, on fait un trio. Parce qu'il y a une espèce d'écoute comme ça où ben, et le batteur, et le bassiste, et la pianiste peuvent jouer.
Ouais.
Et de l'harmonie, et des basses, et des percussions. Et donc, ces trois choses se mélangeant par trois fois... on est quand même sur un truc, bah, je sais pas, il y a le triangle du trio aussi, il y a un truc qui est assez facile à faire sonner aussi. Cette combinaison, elle marche bien au niveau acoustique, ça c'est sûr. Et on joue une fois par an et c'est évident à chaque fois. Et donc, ça c'est une belle. Ça c'est vraiment très très réjouissant quoi, à chaque fois de jouer avec eux.
Alors, on parlera d'autres formations que tu as, mais allez, abordons dès maintenant le but de ta présence ici, c'est-à-dire ces trois journées au Théâtre Montfort avec le Red Desert Orchestra et le projet Eurythmia. Alors, il n'est pas là, mais j'avais comme question, je voulais vous demander comment vous étiez-vous rencontré avec Oumaru Bambara?
Oui.
Parce que vous avez joué en duo, il me semble.
Alors, c'est grâce à Antonin Lemarié. Super percussionniste batteur que j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années déjà à Paris, qui lui a fait l'école du djembé dans le parc de la Villette. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de le dire, pardonne-moi Antonin, et qui est super compositeur, ouais. Batteur, voisin, ami. Il nous a proposé de jouer à la gare Le Gore.
Ah oui, je vois.
En trio. Donc on a fait ça. Et ça faisait longtemps que je voulais jouer avec des musiciens qui jouent des musiques trad. Et du coup, c'était trop bien. Après, j'ai proposé de faire un trio avec Luca Ventimiglia. On a travaillé un peu tous les trois, on a fait des concerts. Après, j'ai pris des cours de balafon vraiment assidûment. Puis j'ai continué un petit peu au Mali quand j'étais au Mali. Puis maintenant, je bosse plus mon balafon. Mais j'avais l'impression que je pouvais un peu m'imprégner parce que Oumaru, il enseigne comme ça sur la durée, sur la répétition. Donc voilà, on a papoté aussi à travers ses cours. Et à un moment, j'ai monté ce nouvel orchestre pour son divers de nouveau. Hein. Donc tu as cité Fabien Simon, mais on n'a pas dit qui c'était. C'est le directeur, programmateur en tout cas de Festival Son d'Hiver, qui bosse avec une chouette équipe. Et quand il m'a proposé de monter cet orchestre, on venait de créer une version de l'orchestre avec six femmes de Bamako.
Voilà.
Quasiment en même temps. Et on avait bossé comme des ânes pour ce truc. Et tout à coup, on pouvait créer ça aussi, deux mois après, en quatre jours. Et donc, j'ai écrit nuit et jour des machins, mais surtout, j'ai fait des sessions avec les uns les autres et j'ai regardé qu'est-ce qu'ils pouvaient sonner sans que j'écrive tout à la lettre, mais que chacun puisse apporter quand même ses patterns. Mais bon, moi, je fais la direction artistique, mais je pars quand même un peu des propositions des uns des autres.
Mmh.
Et je lui ai proposé de jouer dans l'aventure, et il a dit oui.
Alors, on va revenir, on va décortiquer tout ce que tu viens de dire, là. Parce que ça, tu vas vite pour... Il faut peut-être préciser. Dans ton mail, tu m'as dit, j'aimerais bien inviter Oumarou Bambara, et tu voulais parler de sa méthode d'enseigner, enfin, ce qu'il a fait pour, dans son association, dont je ne me souviens plus le nom. Quelle est la particularité de son enseignement? Quelles sont ses idées pédagogiques?
Je ne sais pas comment il s'exprimerait sur le sujet, voilà, ça m'embête beaucoup de parler à sa place. Ouais. En plus que je suis une toubave, laisse tomber, que je ne me sens pas légitime. On va le faire revenir ici. Ouais. On va lui proposer de revenir parce que
je ne savais pas que tu avais pris des cours de balafon, c'est pour ça que je me permets.
Ce que j'ai raconté, c'est que on apprenait des morceaux et on les faisait tourner pendant des heures. Donc les cours durent des heures. Bon, quand le balafon type notice, au moment où il te propose de faire une pause. Mais j'aurais tellement aimé aussi qu'il devait venir avec une de ses élèves, qui est aussi notre chargée de communication. Et j'aurais aimé qu'elle parle aussi, mais je crois qu'elle a été trop timide, là, sur le coup. mais la prochaine fois, je pense que là, je l'enfonce un clou. voilà, je suis avec eux en pensée. Bénédicte Oumarou, on vous attend. Je suis mal placée pour parler des cours, parce que je les ai pris en privé l'été dans le parc, et lui il a une association, effectivement, ouais, il les donne plusieurs soirs par semaine. On pourra mettre l'adresse sur le site et tout. Voilà, j'ai pas les infos exactes, et en fait j'aurais pu tout préparer si j'avais su bien avant qu'il venait pas, mais comme
et ouais,
c'est
et
un peu désistement dernière minute pour cause de gros Covid.
Donc j'essaye de chercher le nom de son association, je l'ai noté, mais tu sais comment... la compagnie Les Hommes Debout, c'est ça?
Ah, peut-être.
Oui, c'est ça. Bon, avant le Red Desert Orchestra, il y avait le White Desert Orchestra, alors...
Oui, le désert de neige.
Ouais, ça n'a rien à voir.
C'était inspiré des déserts de neige du Nouveau-Mexique et de l'Islande et de la Norvège, et il y avait même un musicien norvégien à la trompette, et donc j'étais partie d'images et de sensations géologiques pour écrire. Mmh. Et donc c'était toute ma période un peu plus glaciaire. et je me suis rendu compte que j'aimais énormément danser et jouer rythmique, mais je me faisais pas trop dans ma musique, donc j'ai voulu aller vers la chaleur et je savais pas trop pas. En tout cas, en Île-de-France, il y a énormément de musiciens de partout et de plein d'origines. Et je trouvais ça hallucinant qu'on ne se croise pas beaucoup.
Ouais.
Forcément, c'est des constats sociologiques complètement bateaux. Mais alors, je me suis dit, bon...
Il va falloir
que je provoque, parce que le truc ne se passe pas en claquant des doigts. Surtout que je viens du milieu du jazz, où déjà, il y a plus d'hommes que de femmes. Mais dans le milieu de musique trad aussi, si tu n'es pas chanteuse, tu n'as pas beaucoup d'habitude non plus de rencontrer. Mmh. Bon, bref, j'ai essayé de casser quelques codes et de demander des noms, des numéros. J'ai fait des sessions, j'ai appelé des gens. J'ai cherché des meufs aussi pour l'orchestre. Et attends, on en était où? Et donc, oui, à un moment donné, on avait assez joué avec la première mouture de l'orchestre, qui était aussi un truc que j'avais lancé à la fin de ma formation au conservatoire. On a un examen à la fin, tout libre.
Ouais.
Et j'avais pu créer un orchestre pour la première fois avec cette neige. Et donc, c'était super, parce que c'était un programme libre, donc j'avais pu vraiment faire ce que je voulais. Et ça m'a donné envie de faire un orchestre, mais quand je suis sortie du conservatoire, j'ai été prise à l'Orchestre National de Jazz. Et ça m'a pris vachement de temps, mais j'ai appris beaucoup de choses aussi pour moi plus tard, pour l'orchestre. Mmh. Mais j'ai pas pu lancer l'orchestre tout de suite. Donc j'ai fait 5 ans d'ONJ, puis j'étais toute jeune. Et après ça, j'ai tout de suite fait mon orchestre. Quand l'ONJ était fini, j'y avais mis quelques sous de côté pour pendant un an préparer... mon propre orchestre, et là c'était tellement le kiff. Vraiment, j'avais senti que j'aimais l'orchestre, mais vraiment, je me suis dit, mais je pourrais faire que ça.
Ouais.
C'est tellement challengeant, quoi. Fallait que je trouve comment. Bon, ben, je sais pas, faudrait peut-être mettre un peu de musique, je parle beaucoup là, mais.
Non, attends, ben, je voulais juste, avant, on va réécouter effectivement le Red Desert Orchestra, mais je voulais savoir, avant, qu'est-ce qui t'a attiré? Parce que là, pour le coup, c'est plutôt des. C'est plus les États-Unis, la Norvège et les trucs froids, c'est clairement l'Afrique.
Ouais, c'est ça que j'étais en train de raconter, que je voulais aller.
Quel lien tu as avec l'Afrique?
Je voulais aller vers quelque chose de plus solaire, et donc je te disais qu'en Île-de-France, il y avait plein de musiciens. Afrique de l'Ouest, parce que forcément, il y a aussi, on a tous ces gens qui parlent bien français, qu'on a colonisé aussi. Hein, et donc, bah, j'ai provoqué, je te dis, des sessions, des rencontres, et puis, puis hop là. Hein, et je me suis autorisée de jouer ces musiques sans les connaître sur le bout des doigts, mais je suis allée au pays un peu, je me suis dit que j'apprendrais en faisant. Je me suis dit qu'on pouvait essayer d'apprendre les musiques traditionnelles pas que d'une manière dont l'ont toujours fait les hommes.
Oui.
Hein, y a un savoir universitaire comme ça dans l'apprentissage des choses qui est certes intéressant et important et sans doute très très essentiel, mais je sais pas, moi j'aime beaucoup les savoirs qui sont développés par d'autres formes de sensibilité, et je pense que moi j'ai beaucoup de savoirs que je ne suis incapable de nommer et de prouver, qui sont de l'ordre de la sensation, l'instinct, tout ça c'est des savoirs qui sont pas prouvables avec des diplômes de balafon et tout ça, mais je me suis dit que c'était aussi possible de m'accepter comme ça, sans avoir fait toute l'école de la musique mandingue. Après, c'est vrai que maintenant je suis limitée, il faut que je bosse des trucs. Mais il y a tout le reste aussi. Puis on a rencontré ces femmes à Bamako. Ouais, attends, et ce que je vais dire, c'est juste que j'ai fabriqué cet orchestre parce que je voulais aller vers le show, le rythme et tout. Mais je voulais pouvoir rencontrer un groupe de femmes à Bamako qui avait un orchestre aussi, et je pouvais pas y aller si j'avais pas d'orchestre moi. Donc j'ai pu précipiter la fabrication de l'orchestre ici pour rencontrer ces femmes. Comme ça, on avait tout un orchestre et on mélangeait cet orchestre, et est né le groupe Kogoba Basigi qui a joué à Son d'hiver aussi en janvier.
Ah oui, on va reparler après. Mais là, on va écouter toujours Eurythmia. Et donc c'est le morceau qui s'appelle Saut. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui à Ève Risser. Alors Ève, tu sais, le projet Kogoba Basigi, on en a déjà parlé à trois reprises dans l'émission.
Waouh, merci.
Et avec Fanny Lasfarg, Sakina Abdou et Tatiana Paris.
Oh là là, les copines à brochette.
Et alors trois émissions séparées, bien sûr. Hein. Je crois même lors d'une émission, j'avais dit, je crois que c'était à Tatiana, je lui avais dit, mais bon, il y a un moment, il va falloir que ce soit Ève qui vienne en parler, parce que à chaque fois, c'est pas l'initiatrice du projet. Là, on va avoir la chance d'en entendre parler par l'initiatrice du projet. Si tu veux nous rafraîchir la mémoire, si tu peux nous en parler en quelques mots, et notamment de ce groupe de musiciennes Kala Djoula Band.
Oui, parce que ce qui est chouette, c'est que ce groupe-là, il est assez collectif, donc effectivement, Tatiana, Sakina, Fanny, elles ont vraiment embrassé le projet. Enfin, ça s'est vraiment fait super ensemble. On a aussi pas mal discuté. Bon, moi, j'ai pris la direction artistique, ce qui fait que je peux cadrer quand ça déborde et prendre beaucoup sur mes épaules en termes de charge mentale. Mais l'idée, c'était de faire une rencontre de deux groupes pour que ce soit pas juste une vision d'artiste, machin... sur un passé colonial comme ça, moi, ça me faisait hyper peur. Ouais. Mais je voulais rentrer dans quelque chose de plus possiblement horizontal. Bien sûr, on sait que ça ne l'est pas, mais de me ramener qu'un orchestre, qui rencontre un orchestre, on était déjà plus dans un truc assez sympa où ben, plein de gens se rencontrent. Et si on veut que ça joue, il faut qu'on passe du temps ensemble, qu'on tisse des liens. Et les années passent, et puis on s'engage dans le projet. Et moi, j'ai expliqué à tout le monde que je voulais que ce soit un projet... le mot projet, allez, on s'en fout. Que ce soit un machin qu'on porte ensemble, et que c'était pas un énième projet franco-africain d'un soir. On allait pouvoir se la péter parce qu'on jouait avec des gens en costume et tout, mais qu'on fasse quelque chose de... Ben, qu'on regarde sur la durée ce qu'on est capable de faire, sachant que j'ai pris la proposition de travailler avec tout le groupe sans l'avoir écouté.
Ah ouais.
Donc c'était vraiment un partenariat de confiance avec le Festival Africolor et appuyé aussi par Oka Traoré qui était dans une discussion... Quand le projet a commencé, j'avais écouté Naini Diabaté à la radio. Hein, ses albums, c'est une star de variété des années 80-90. Ses albums sont sur toutes les plateformes. Je prends le taxi, les mecs connaissent tous Naini Diabaté. Ouais. Donc, qui est une griotte de Bamako, d'une cinquantaine d'années, qui a une énergie de feu. Alors là, ouais, ben, les nanas, quand. Ça envoie quoi quand bah, vivre de la musique, de sa musique. On a affaire à. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est trouvé sur pas mal de questions en commun sur ce terrain-là. Hein, de parfois la. Elle a été quand même obligée de faire de la non mixité dans son groupe, sinon c'était. Ah
bah c'est ça que je voulais.
Même pas possible. Ouais. Moi c'est ok. J'ai trouvé des mecs qui collaborent. Facilement avec des femmes. Il n'y en a pas beaucoup, mais... enfin, je veux dire, en tout cas... parce que... Je peux dire ça en aparté, que j'ai quand même monté des orchestres aussi en mon nom, parce que j'avais du mal à faire passer mes idées. Simplement, ouais. En étant juste sympa, bien dans ma peau, et femme, et ayant eu tous ces problèmes discriminatoires dans ma formation. Donc, je ne vais pas me plaindre parce que je suis en plus blanche d'une famille où j'ai eu beaucoup de chance et tout ça. Mmh. Mais, à un moment donné, en mettant un orchestre sur mon nom, je pouvais avoir le dernier mot alors que la musique me demandait de sortir de moi. J'avais beaucoup envie de sortir de musique et d'avoir le dernier mot. Et donc, j'ai fait des orchestres. Alors... Tu vois, parce que ça m'a posé plein de questions, parce que j'aimais pas l'idée pyramidale, l'idée d'un chef et tout. Donc c'est intéressant d'en parler ici, je pense. Oui. Mais à un moment donné, je me suis dit, ben, je peux peut-être passer mon temps à devenir la moins pire chef qui existe pour moi. Et essayer de travailler le fer en forgeant. C'est-à-dire que c'est pas en réfléchissant à des valeurs anarchistes pendant 10 ans sans toucher au truc que j'allais y arriver. Par contre, je me suis dit que travailler avec l'orchestre jusqu'à que je me démerde mieux, ça allait être intéressant. Bon, ça c'était une aparté sur pourquoi j'ai fait un band dans mon nom. Et Naini avait fait ça aussi finalement chez elle aussi. Elle a fait un orchestre en son nom, le Kalajula Band de Naini Diabaté. Et je suis allée les écouter à Bamako. Et bon, le fait qu'elles aient réuni six nanas pour jouer tous ces instruments, c'était flamboyant. Quoi.
C'est une formation malienne, hein, c'est ça?
Ouais, elles sont toutes de Bamako.
Et alors, il me semblait qu'il y avait une histoire. C'était compliqué là-bas pour elles.
Ah oui, bah, elles jouent pas. Bah, forcément, elles ont pas de modèle. Donc, il y en a qui jouent du Feu de Dieu, qui sont aussi danseuses, puis mères au foyer, puis qui ramènent la thune. D'autres qui ont même pas l'argent d'avoir un instrument, donc qui peuvent pas travailler sa guitare, je sais pas quoi. Ouais. Certaines d'entre elles avaient fait le ballet royal, donc elles savent danser, jouer. Naini, elle joue tous les instruments, elle est danseuse à la base. Enfin, elles ont des compétences, mais plus fois mille. Et par contre, si la djembé elle joue pas bien, elle va se faire critiquer, tous les gars vont rigoler d'elle.
Ah oui, d'accord.
Donc moi je me suis dit c'est super important qu'on joue tel qu'on est, quoi. Voilà. Ouais. Et puis alors du coup, moi je me suis sentie plus légitime de travailler avec des femmes, de me dire bah j'étais avec mes propres complexes par rapport à la musique traditionnelle. Et du coup il y avait une bienveillance, une douceur dans cette rencontre où tout le monde était bon allez on va faire notre machin, voilà quoi, sur ce fameux terrain de jeu.
Alors moi je vous ai vu au comment ça s'appelle, au musée du Quai Branly, je sais pas si tu te souviens,
à la sortie du Covid. Ouais.
Ah, c'était je sais plus du tout ça. Mais l'ambiance était un peu guindée.
Hyper spé, hein, de jouer là-bas avec ce groupe.
C'était très spécial.
Ah non, c'était très spécial.
C'est très spécial. Un peu guindé et ça s'est rapidement détendu.
Bah, le public n'était pas guindé, mais le lieu est très très spécial.
C'est le lieu, peut-être. Ouais. Ah, ouais.
Mais en fait, c'était particulier. Ce qui s'est passé, c'est que le musée a voulu embaucher pendant 2 ans les filles du Kalajula Band pour leur faire jouer les instruments après rénovation chez des luthiers.
Les instruments du musée ?
Ouais, des instruments traditionnels, en leur proposant de jouer un concert sur ces instruments, de les utiliser, de les faire vivre, et demandant à des spécialistes de ces instruments, ces femmes-là, enfin, qui en jouent, quoi. Et avec le Covid, elles n'ont pas pu faire ça.
Ah ouais.
Et ça se faisait comme ça dans un... Bah, finalement, ils ont programmé l'orchestre parce que c'était le seul truc qu'ils ont pu faire, parce qu'ils n'avaient pas pu faire réparer les instruments à cause du Covid.
Ah, ouais,
ils n'avaient pas pu les inviter pour les jouer. Et il se trouve qu'elles étaient en temps de... Enfin, le Covid en Afrique, c'était un truc parce qu'ils n'avaient pas de subvention, mais tout était fermé. Elles ne jouaient plus, donc elles perdaient beaucoup d'argent en plus.
Ouais.
Donc la situation était telle que j'ai fait, bon, tant pis, si à trois pelés, si les frontières ouvrent, on joue.
Ouais.
Comme ça, on peut payer un concert. Comme ça, on se retrouve. Il se trouve qu'il y en a une qui était déjà malade quand on est... Voilà. Mais c'était essentiel qu'on rejoue, quoi.
Ouais.
D'ailleurs, il a été filmé, ce concert. Donc, en fait, c'était hyper ambivalent parce que moi, je me sens pas bien dans ce musée. Je me sens très mal. Il y a trop de vibrations. Et j'imagine que c'est bien que ça existe, mais moi, je me sens... Enfin, il y a beaucoup d'objets qui ont des âmes et donc je me sens pas bien, parce qu'il y a beaucoup d'objets, j'imagine, volés ou...
Ah, bah oui,
c'est, c'est tout un autre débat que j'ouvrirai pas là.
Ouais.
Parce qu'on n'a pas le temps. Mais intéressant, ce débat.
Ouais.
Tatiana, elle en a peut-être parlé, je sais pas.
Mm.
Mais en même temps, c'est eux qui nous ont permis de nous retrouver et jouer.
Ouais.
Mm. Donc finalement, il y a eu ce truc
Je me souviens
d'une
des musiciennes... qui nous a fait une danse, là, que c'était assez fou, assez dingue, pour justement dérider le truc. Je ne sais pas si tu te souviens de ça.
Ah oui, oui.
Ouais. Et bon, bah.
Le grand écart d'Oumu.
Ah voilà, le grand écart.
En fait, elle part en transe et à certains concerts, elle part en transe, elle enlève sa perruque et elle danse en transe devant.
Ah ouais.
Elle nous rend dingue.
Ah, c'était vrai, c'était.
On rentre en transe avec elle.
Ah, c'était super. Et alors bon, on ne va pas écouter cette formation, parce qu'on l'a déjà écouté. Je crois qu'on a écouté plusieurs fois le même morceau d'ailleurs, qui est Burkinabé.
Oui, parce qu'on a que des extraits de live, on n'a pas fait d'album, c'est vraiment une musique, c'est un show quoi, c'est une fête.
Alors parlons plutôt de Rythmia qui aura lieu au Théâtre Montfort. Alors du coup, par rapport à ce programme précédent, quelle est la particularité? Moi, j'ai l'impression que la présence des instruments percussifs, Oumaru notamment, et le balafon, et plusieurs balafons d'ailleurs.
Deux balafonistes, deux Mélissa balafonistes, et Ophélie Hayet. Voilà, deux femmes de Bordeaux, qui sont nées à Bordeaux.
Et où et Oumarou joue du djembé là-dedans.
Et Oumarou joue djembé et du bara. Ouais. Mélissa et Ophélia jouent balafon et Mélissa joue aussi du djembé.
Alors, est-ce que le principe de ce nouveau programme, comme le nom l'indique, Eurythmia, est-ce que c'est basé sur le rythme?
Le rythmie, dans le dictionnaire, ça veut dire alignement des sons, des couleurs et des lignes.
Ah, d'accord.
Et du coup, sur la pochette, il y a une espèce de rocher avec des couches sédimentaires de lignes.
Ah, oui.
Ça rappelle lointainement ce délire sur la géologie du premier album.
Ouais, d'accord.
Mais les lignes, parce que j'imagine toujours cet orchestre qui fait des lignes continues, répétitives et qui s'emboîtent les unes avec les autres. Et ce rocher qu'on voit sur la pochette de l'album, c'est un peu la compo qui s'appelle Désert Rouge. Donc là, je me suis permise de créer un répertoire plutôt sur mon initiative de directrice artistique qui propose à des musiciens et des musiciennes de jouer dans mon groupe, ma musique, qui devient notre musique parce qu'ils font énormément de propositions à l'intérieur, ouais, d'arrangements. Je les remercie. Et par contre, oui, c'est un tout autre projet que celui avec les femmes de Mamako. C'est juste donc des gens qui jouent dans mon groupe.
Ouais.
Ça a la particularité d'avoir des sonorités de ces instruments, mais c'est pas du tout une musique mandingue, c'est mes compos.
D'accord.
Donc, moi, je trouve que c'est un défaut des Français et des toubabs des musiciens blancs ou du public blanc qui, dès qu'il entend des instruments traditionnels, pense que c'est de la musique africaine.
Ah, ouais.
Pour moi, c'était important que je puisse jouer avec des gens qui habitent près de chez moi, qui jouent... voilà, il n'y a pas de... Pourquoi j'embaucherais pas machin balafon ouais. Alors que machin... on invite toujours les gens avec qui on a fait ses études ou avec qui on traîne. Et puis moi, je voyais que ça ne se mélangeait pas beaucoup et que j'y avais tellement envie, donc je suis allée toquer.
Ouais, bah bravo, super. C'est super.
Bah, y a plein de gens qui font ça, hein, mais en tout cas, c'est génial. Enfin, parce que du coup, nous, on a dû fabriquer la musique oralement, parce qu'il y en a qui ne lisent pas. Et puis on s'est dit aussi que c'était mieux de ne pas faire une musique trop écrite. Moi, ça m'a fait un grand choc à mon cerveau qui stressait pour retenir la musique. C'est-à-dire que j'étais tellement dans l'impro que je faisais jamais l'effort de retenir par cœur.
D'accord.
Et en fait, je l'avais fait en classique, retenir des morceaux de kilomètres de morceaux par cœur. Je le faisais plus. Et avec eux, j'ai repris confiance dans cette mémoire et j'ai de moins en moins besoin d'écrire parce que j'ai plus en plus pratiqué de nouveau. Alors, on n'écrit pas la même musique quand on met pas le stylo et
qu'il n'y a pas la feuille.
Mais alors, il faut beaucoup plus répéter, pratiquer.
Ouais.
Et on voit que la mémoire de Ophélia, Mélissa Oumarou, est beaucoup plus entraînée au par cœur. Et donc, c'est la mémoire du groupe, quoi. Alors là, moi, je patauge à côté, mais voilà, je travaille, j'avance.
Alors, pour autant, je pense qu'il y a quand même une grande part d'improvisation, enfin, une grande part qui est laissée à l'improvisation.
Ah, c'est assez écrit, en fait. Ah, mais c'est une écriture. On pourrait dire jazz dans le sens où il y a des choses qui débordent de la partition.
Ouais,
mais cette partition n'existe pas
pratiquement
en physique, sauf pour les instruments avant, parce que je leur distribue des notes d'accord. Donc pour ça, j'édite une partition qu'ils apprennent vite par cœur, parce qu'il y a trois trucs. L'idée, c'est d'improviser ces matériaux écrits ensemble sur scène, avec la vibe du soir, le public qui est là, l'ambiance... le son qu'on reçoit dans nos retours ou pas, si on est acoustique, comment on s'entend, comment on s'écoute. Et il faut tout le temps être sur cet équilibre de... vas-y, on improvise plus, mais alors les compos, elles ne ressemblent plus à rien. Vas-y, on resserre un peu les compositions ce soir, on les desserre un autre soir.
Ah ouais.
Et en fait, cette espèce de magie humaine... grandit ensemble depuis plusieurs années là et c'est ce qui se passe, c'est assez profond et c'est assez fort musicalement. J'ai jamais autant répété les mêmes morceaux de ma vie, mais en les creusant et j'ai trouvé beaucoup d'émotions. Je te racontais avant que Soyaya, je pleurais toujours au même passage, parce que je pense à ce que je reçois des vibes de mes amis eux aussi.
Je... Oui, je t'ai vu à la fin du morceau. Et tu fermais les yeux.
Oui, mais je pense à, je pense que je suis pas la seule à en envoyer à ce moment-là dans l'orchestre. Alors du coup, ça résonne à chaque fois. Maintenant, la semaine prochaine, au théâtre Sylvia Montfort, on s'est dit, on invite des invités.
Ah voilà, ouais.
Et on va créer du répertoire avec elle, des morceaux à elle réarrangés, des morceaux à nous réarrangés et des nouvelles choses aussi. Ah. Voilà, pour mettre, parce que c'est difficile de trouver l'argent pour répéter et le fait d'avoir trois dates comme ça avec des invités, on va faire plein de nouvelles choses. C'est une fête pour les musiciens qui ont besoin de manger cette nouvelle musique, pour nous, de nous fêter toutes ces belles tournées qu'on a faites.
Alors, est-ce que tu peux détailler jour par jour, peut-être ?
Oui.
C'est les invités que tu auras.
Oui, je parle déjà beaucoup. Hein. Mais alors, le premier soir, on a invité donc, toute la classe de Omar Bambara.
Super.
À venir présenter des morceaux après le spectacle.
Après, donc, oui.
Pendant le spectacle, on va jouer notre set de Rythmia, puis inviter Naïssam Jalal.
Super.
À la flûte et au ney. Et nous avons des jeunes griots de la place des fêtes qui vont jouer aussi, normalement, avant le concert.
Ça, c'est le mardi.
Ouais, mardi 18 juin. Mm-hmm. Théâtre Sylvia Montfort, dans le 15e. Le lendemain, le 19, donc, nous avons, avant le concert, un solo de notre invité, Julen Achiari, qui est un chanteur basque qui joue aussi de la percussion. Ouais. Qui sera aussi invité de nous pendant le concert de 20h.
D'accord.
Seront aussi invités Marion Cousin et Héloïse Decaze, qui sont deux chanteuses qui font des musiques à elles et empruntées de musique traditionnelle expérimentale et avec leurs univers magnifiques. Et elles chantent en duo, à l'unisson, et on va les inviter pour un morceau aussi.
Ouais. Ah oui, ce sera au sein de Rythmia. Ce sera
ouais,
après.
Ouais, on les invite avec l'orchestre. Ouais. Et on ne sait pas ce qu'il y aura comme surprise de... après le spectacle.
Il y aura une surprise, donc, ouais.
Et le 20...
Donc le jeudi.
Le jeudi 20, nous invitons Kat Hernandez, qui est une violoniste américaine, native d'Amérique, et qui... Enfin, de Philadelphia, qui habite maintenant à Stockholm, en Suède, et qui, plus récemment, a aussi un travail sur la musique électroacoustique, mais qui est violoniste de tout. C'est quelqu'un qui résume l'histoire de la musique de partout, dans son violon et sa voix et son attitude. Elle est juste hallucinante et elle est tellement solide sur l'instrument. Et ça va de la musique traditionnelle à la musique contemporaine, à tout. Et c'est une des musiciennes qui me touche le plus sur Terre. Et voilà, je suis trop contente qu'elle vienne. Elle est suivie de Delphine Joussin, une super punk pote.
On la connaît, oui.
Voilà, qui viendra faire un morceau avec nous aussi. Delphine qui joue avec nous à la gare ce soir.
Ah, c'est ce soir, d'accord.
Et oui. Il y aurait peut-être faire un morceau avec elle. Avec Blanche Lafuente, qui joue aussi avec nous, avec Eurythmia et Kogoba. Elle est en binôme avec le batteur.
Ah, d'accord.
Et ce soir, il y a aussi Raphaël Rinaudot.
Ce soir
à la harpe dans Nout.
Bah oui,
leur
bien
trio.
Sûr. Ouais, ouais.
Voilà. C'est vraiment des femmes que j'adore. Ça,
je le redis parce que je sais qu'elles avaient eu la gentillesse de venir jouer Nout pour les 40 ans de Radio Libertaire.
Ah, trop bien.
Et ça avait beaucoup, beaucoup plu à pas mal d'animateurs, animatrices de l'émission. Donc ce soir, Nout, à la gare, c'est Corentin Cariou, je ne sais
ouais,
plus.
Ouais, voilà, au bout de la rue de Crimée, là.
Rue de Corentin.
Près de la porte de la Villette.
Ouais, ouais, très bien, très bien.
Elle joue tout le week-end, je crois.
Ouais.
Donc Delphine, voilà, et donc Kat Hernandez fera un solo avant, ouais. Acoustique, et des surprises après, je pense aussi. Voilà le programme de trois jours.
Les trois jours. Alors dis-moi, je parlais du concert du Quai Branly, tu vois, au bout d'un moment, les gens, ils commençaient à dodeliner de la tête quand même. Est-ce que, et je connais les abonnés des théâtres, est-ce qu'ils vont finir par dodeliner de la tête également? Est-ce que
si c'est dansant, ils peuvent
ils peuvent danser.
Il se trouve que le problème, c'est pas facile de vendre des orchestres dans des tout petits clubs qui ont pas d'argent, parce qu'on est 12 sur scène.
Oui.
Donc on a la chance d'avoir des théâtres qui nous accueillent, mais c'est vrai que le public est souvent coincé dans le siège, donc on profite des propositions à la fin des concerts s'il veut.
Il y a toujours moyen.
Si le public veut se lever, danser. Après, on sait qu'on va avoir un moment spécial pour ça, peut-être plus informel dehors ou dans le bar s'il fait moche, avec les jams prévus. Mais oui, en général, en ce moment, le concert de Rythmia, il finit par un ou deux morceaux debout.
Bon, super.
En mode festif. C'est de la musique un peu de trance et avec des morceaux calmes qui s'écoutent assis. Mais je sais qu'il y a des morceaux qui s'écoutent assis qui peuvent s'écouter debout, ouais, pour ceux qui ont la chance de pouvoir se mettre debout. Mais c'est pas non plus la musique totalement dansable, mais en même temps, c'est complètement important de pouvoir se dandiner dessus. Ouais, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent ces chaises, mais voilà.
Bon, bah, ça,
on se débrouille. Hein. Tout est permis. Tout est permis.
T'inquiète pas. T'inquiète pas. Bon, on va parler de tout à fait autre chose. On va écouter un extrait, encore une fois, de Après un rêve, et puis on en parle après. Thank you. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne, partout ailleurs, radio-libertaire.net. Les oreilles libres aujourd'hui accueillent Ève Risser. Alors Ève, nous venons d'écouter un extrait de Après un rêve. Voilà, la question idiote que je dois te poser, est-ce que ça a un rapport avec Gabriel Fauré ?
Oui, c'est le même titre.
Oh, bah oui.
Mais c'est parce que c'est la suite du premier album solo que j'avais fait, et ça s'appelait « Des pas sur la neige », qui est un plagiat d'un titre de Debussy.
Ah, d'accord.
Alors, ces titres plagiés, ça vient du fait que j'ai fait, comme on le disait tout à l'heure, de la musique classique, et j'ai beaucoup mangé de musique française comme ça, avec ma prof de Colmar, Dominique Gérard, et elle m'a vraiment bien aidé à rentrer dans des musiques poétiques, romantiques. Et je pense que j'ai gardé cette trace. Ouais. C'est un endroit qui a été de liberté pour moi. Parce que c'est vraiment un endroit où j'ai pu lâcher mes émotions. Et tous mes profs m'ont permis ça, à cet endroit-là. Donc je la remercie beaucoup. Et je pense que je joue pas mal de musique en solo avec cette même énergie, mais avec ma sauce, quoi, maintenant. Mmh. Mes sons, mes trucs un peu préparés, tout ça, qui, a priori, ne serait pas à mettre à côté du répertoire classique. Je pense que ma vieille prof, maintenant, ne comprendrait pas, mais quoique. Mmh. Et quelque part, c'est comme si je disais exactement la même chose émotionnellement que quand je jouais ces pièces-là. Mais je les joue avec cette musique et je crois que j'ai voulu rappeler ça ou mettre une graine de cette sœur d'émotion que je trouve dans les deux répertoires, voilà, pour moi.
Voilà qui est dit. On va être clair par rapport à ce qu'on vient d'écouter. Il s'agit bien d'un solo, mais moi j'entends plein de sons qui ne ressemblent pas forcément à du piano. Alors, je voulais savoir, est-ce que tu utilises de l'électronique, des effets, de boucles ou même des boîtes à rythme, ou non ?
Alors, ben justement, rien du tout.
Voilà.
Tout est fait à la main.
Super. Et tu es toute seule, quoi.
Donc, dans la boîte à outils... Non, mais le piano, c'est un super instrument vivant qui a... quand il est piano à queue, c'est un piano qui est couché. Mmh. Piano droit, c'est un piano qui est debout. Mmh. Donc, les objets tombent si on pose dessus. Mais bon, ouais. En tout cas, ce qu'on peut expliquer aux auditeurs et aux auditrices qui ne connaissent pas les techniques de piano préparé, c'est qu'on peut accrocher des choses sur les cordes d'un piano. Il faut explorer des choses qui lui font pas mal et dont on trouve les sons intéressants. Mais on peut explorer tout un tas de choses qui peuvent transformer le piano en petit orchestre. Ouais. Voilà, piano pour moi c'est un orchestre. On a accès à des grosses basses, on a accès à des aigus, on peut préparer l'instrument pour en faire un instrument à percussion, et il a toujours des notes libres pour faire des accords, des mélodies. Bon, on a vraiment tout l'orchestre, quoi. Sauf des sons longs.
Ah oui.
Mais qu'on peut aussi fabriquer
les hibos là.
Voilà, il y a des archets électroniques qui existent pour jouer sur des pianos couchés. Sur le piano debout, il n'y a pas de...
Ah oui, alors, ouais.
Donc moi, j'utilise un vibromasseur. On reste dans un super long champ lexical cet après-midi, vendredi sexy, qui entretient une note, une espèce de cloche en ré, en l'occurrence. Donc, il y a un objet électronique, ce qui marche avec une pile, mais il tape sur une corde, donc c'est quand même mécanique le son. Il y a des choses sur les cordes, et quand je frappe ces cordes, les marteaux tapent soit sur un bout de bois ou un bout d'autre chose, ou alors tapent sur la corde, mais la corde elle a quelque chose d'accroché à un autre endroit qui fait qu'elle va avoir un autre son. Et donc, j'utilise maintenant aussi une grosse caisse pour ce solo. Donc, je tape, je fais la basse maintenant avec le pied pour faire une espèce de petit orchestre. Bon, je ne m'amuse pas à faire ces ego trips toute l'année. Hein. Je fais quelques solos par an. Et ils m'inspirent pour les musiques que j'écris pour l'orchestre après, quoi.
Ouais.
Après, c'est très lourd de toujours essayer de tourner avec des orchestres. Donc, c'est assez sympa de s'entendre d'avoir une date solo où tout est simple à organiser. Je viens, je joue. Et puis, je regarde si je suis encore un peu jouer du piano toute seule. Hein, parce qu'à force de jouer avec les copains, on peut aussi se cacher. Donc, ces allées-venues entre formation, grande formation et à poil en solo, c'est quelque chose qui je trouve très équilibrant.
Alors, je voulais te poser une question Pourquoi ? Parce que moi, je t'ai vu plein de fois jouer du piano préparé, du piano à queue. Et pourquoi là, tu utilises un piano droit ? Et je vais te laisser répondre tout seul, parce que je vais ouvrir la porte.
Alors, le piano droit est beaucoup plus rythmique pour moi, parce que les marteaux sont devant moi. J'ouvre donc le capot du piano. Je le déshabille, quoi, je le désosse. Et tous les gens derrière moi, autour de moi et moi, on se retrouve devant les marteaux, qui sont comme une petite batterie avec 88 marteaux de cette petite batterie. Et donc le son aussi d'un piano droit est un peu plus pop, donc un peu plus direct. Il se trouve qu'un piano droit n'a pas les propriétés de double échappement de tralala d'un piano à queue. Donc, si on veut faire plein de nuances différentes, le piano à queue, il est plus adapté. Et le piano droit, parfois, il a 3 nuances, 4 nuances, alors qu'un piano à queue en a 12.
D'accord.
Et donc, ce piano droit, il avait un challenge plus rythmique. Il est peut-être plus facile à louer. Il prend moins de place. Il a une espèce de... Je sais pas, il a une connotation un peu plus populaire. C'est plus le piano du concertiste, la concertiste. Ouais. On peut peut-être envisager jouer du piano un peu plus n'importe où. Parce que alors là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais piano, c'est équivalent à une maison parce qu'on joue toujours dedans. Pourquoi ? Il y a des pianos qui jouent dehors. Donc moi, j'ai acheté un bébé piano qui est dans mon coffre de la voiture maintenant, que je peux mettre où je veux. Mais avec un piano à queue, vas-y quoi. Il y en a qui arrivent à mettre des pianos à queue dans des camions avec des chenilles qui descendent. Bon, bref. Mais en tout cas, le piano droit... C'était un petit compagnon. Alors voilà, je joue plutôt, tu vois, sur scène, et je mets le public sur scène, autour de moi, en petit comité, et on joue comme ça, en cocon.
D'accord.
C'est plus tu vois, parce que le concert de piano, c'est un rituel. Hein. Alors, depuis la nuit des temps, c'est à 20h30, c'est sur une scène, des gens assis. Hein. Et je me suis dit, mais au bout de 20 ans, est-ce que je peux pas jouer un peu à d'autres horaires, devant d'autres types de public, et tout ça, blablabla.
Ah, super.
Voilà, j'ai répondu pendant qu'on...
Ouais, bah, écoute,
on a accueilli nos amis de la compagnie Rêver.
Je réécouterai l'émission pour avoir ta réponse, en fait. Et je voulais savoir, toujours par rapport à cette formation, donc ce solo, est-ce que tu improvises totalement ou est-ce que tu as une trame qui te mène d'un point à un autre ?
Ben, un peu comme j'expliquais tout à l'heure pour Red Desert, c'est assez écrit. Pour la bonne raison que rythmiquement, je suis incapable d'improviser des mains gauches comme ça. Parce que je fais vraiment beaucoup de choses en même temps.
Donc, c'est impressionnant.
Donc je les pratique. Après, plus je les joue, plus je suis libre dessus.
D'accord.
Et ça devient une écriture où tout n'est pas... Je pense à Antonin Lemary qui travaille pas mal comme ça avec le Magnétique Ensemble. J'avais pas mal joué avec son groupe. Bon, au lieu d'avoir un standard de jazz, on a une rythmique, quoi. Et on... Ça trace pas tout droit, c'est-à-dire qu'on a des matériaux qu'on malaxe, et donc on peut faire durer. Ça laisse une liberté de transe, d'improvisation sur un carcan donné. Donc voilà, on est pile entre les deux.
Alors, dans ce disque, alors peut-être un mot sur les disques, chez qui ils sortent, est-ce que tu peux nous dire ça ?
Oui, donc les albums. Bon. On a initié un label avec des copains à Paris, il s'appelle Umlaut Records depuis 13-14 ans. Maintenant, j'ai du mal à sortir mes disques sur mon propre label, donc parce que ça demande trop de travail. Et il y a quelqu'un de confiance qui s'appelle Pedro Costa, qui a le label Clean Feed à Lisbonne, qui me fait confiance depuis le premier album, Des Pas sur la Neige, et qui sort les orchestres, mais qui est en train de mettre la clé sous la porte parce qu'il fait du disque et que c'est trop difficile... de maintenir
l'activité.
Donc il va être là au Montfort la semaine prochaine avec le stand de disques et moi je pense qu'il fait un travail de fou. Il a en fait, il a fait que des musiques risquées, quoi, toujours, donc forcément il a coulé la boîte, quoi. Mais bravo à lui, quoi.
Alors
après, moi je faisais de la musique hyper easy listening par rapport au reste du label, hein.
Ah c'est vrai, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Dans Après un rêve, il y a Adrien Bourget qui réalise le son. Et c'est également ton partenaire dans le duo Rêve Party, que j'aurais pu voir, mais que j'ai manqué. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux projets ? Est-ce que l'un serait le prolongement de l'autre ?
T'as dit quoi au début, Adrien ? Il est sur quoi d'autre ?
Eh ben, sur Rêve Party.
Et ?
Eh ben, là, sur le... Il fait pas le son de...
Non, sur cet album, c'est Céline Granger.
Ah ouais.
fait, Céline a enregistré l'album acoustique.
Et ben,
ouais. Plus tard, j'ai travaillé cette forme avec un ingé son qui est Adrian. Et maintenant, on joue ensemble, même sur scène, pour la version club de cette musique qui est devenue... ils sonorisent tous mes sons et... Non, mais c'est pas... Il y a deux ingé sons sur le projet.
D'accord.
Céline, elle fait le son de Red Desert Orchestra de Rythmia. Ah, oui. Mais c'est Adrian qui sera là la semaine prochaine. Et bon, on travaille beaucoup avec les deux, quoi.
Ouais, ouais, d'accord.
Et donc, ouais, la version club que t'as failli voir, Rêve Party. Adrian, il met des capteurs, des petits micros sur toutes les préparations piano.
Ouais.
Donc, c'est machin que j'ai expliqué aux auditeuristes pendant que tu ouvrais la porte. Les trucs que je branche sur les cordes, là. Il met des capteurs et après, il met tout dans un ordi et puis, il fait des effets dessus pour sonoriser fort. Et donc là, il peut balancer en club très fort et là, on peut avoir les gens debout qui dansent et tout. Voilà,
voilà, c'est un peu, genre, j'y connais rien, mais un petit peu dance, techno.
Électro.
Électro, voilà. Ouais.
Ouais. Électro-impro, quoi. Ouais. Et puis lui, il fait un... Donc, il crée pas de musique sur ma compo, mais il crée des effets sur cette compo. Et après, lui fait un DJ set avec ses compos et moi, je joue quelques sons dessus. Ah donc, oui. C'est une espèce de biface comme ça.
Alors, peut-être tu peux nous présenter nos
voilà.
Amis.
Voilà. Ouais. Ben, merci d'accueillir ces orchestres, ces projets ne seraient rien sans la compagnie qu'on a montée avec Charlotte de Jésus ici présente.
Bonjour.
Ah, attends, je t'avais pas mis le micro, pardon.
Quoi?
Et Olivier Heredia, ici même.
Bonjour.
Donc,
alors peut-être tu peux nous parler de cette compagnie. C'est la compagnie qui porte tes projets, pour dire le mot. C'est ça?
Ouais, complètement. Ben en fait, pendant des années, j'ai commencé à travailler sans. Ben on a le label Umlaut dont je parlais, qui était un collectif, qui était une structure qui pouvait appuyer certains projets.
Ouais.
Puis il y avait un tourneur qui aidait l'orchestre et tout ça, enfin, qui produisait l'orchestre. Et en fait, on s'est élargi. Et à un moment donné, bon, on s'est dit, on crée une famille, une structure, quoi. Et j'étais contente que Charlotte réponde présente à la... Parce que, du coup, je l'ai fait aussi parce qu'il y avait Charlotte. Je pense pas que j'aurais pu monter ça. Mais grâce aussi à Laetitia Zepfel, qui est arrivée avant pour me soutenir, pour monter une compagnie après. Donc, il y avait tout un chemin pour aller jusqu'à une compagnie qui est un modèle français de structuration en association, avec lesquelles on peut demander des subventions pour aider. Et alors en orchestre, c'est vraiment utile. Ouais. et donc bah, là, forcément, le tronc est élargi, il y a une solidité.
Ouais. Ah, mais Charlotte, on s'est déjà croisés. Hein,
oui.
Ah, bah, plein de fois, je crois même.
Avec Albert Merca.
Ah, c'est j'allais le dire, oui.
Pauvreuse qui était venue faire les visiteurs du soir.
Ouais.
Charlotte, donc, qui collabore depuis de nombreuses années avec des artistes. Mais je te laisse en parler. Hein, et...
Vas-y,
Ben, on s'est peut-être connus parce que j'animais les jam sessions avec Benjamin Sens pendant très longtemps à la miroiterie, Christophe.
Bien sûr, bien sûr. Voilà, ça ne nous rajeunit pas, ça.
Ça ne nous rajeunit pas, mais en fait, je crois qu'Ève, elle a... Comment te dire, entre la fraîcheur de ce qui se passe dans un squat à la miroiterie, qui c'est vraiment très très beau, et retrouver cette fraîcheur dans un orchestre structuré, subventionné par la DRAC, il y a des endroits où en fait on retrouve cette qualité d'écoute, de surprise, de jouage, je trouve.
Ouais.
Comment te dire, entre la fleur fraîche et fragile qui sort d'un squat, qu'on verra une seconde, qui n'existera plus jamais, voilà, le moment présent, l'instant précieux, présent, fragile, et pouvoir essayer de que cette liberté musicale-là, elle fasse vivre les musiciens, qu'on puisse se projeter, qu'on puisse bâtir une famille, rester ensemble longtemps, se dire dans 6 mois, on va faire une tournée en Scandinavie et ça va super bien se passer. Bah, c'est un sacré challenge, mais Ève est suffisamment folle dingue et inspirée et nourrie pour avoir ce mélange de solidité et de sincérité, d'intégrité.
Ça ne marcherait pas si Charlotte n'était pas folle dingue pour suivre avec Olivier aussi ses aventures.
Ben, on est plus dingue, mais on est aussi, on est quand même qualifié en tableau Excel, en fichier, gna gna gna, cordialement, ben ouais, ça cordialement. On sait faire.
Et alors toi, Olivier, qu'est-ce que tu fais dans cette sphère-là?
On va résumer brièvement en disant que je suis l'administrateur, donc je m'occupe beaucoup de tableaux Excel, en l'occurrence. Je mets des couleurs formidables, ce qui fait que ça devient digeste, et on bosse vraiment en binôme avec Charlotte sur un peu tout, on se soutient, mais il y a quand même beaucoup de tournées, donc ça représente évidemment avec des gros orchestres comme ça un volet de logistique qui est juste considérable, et puis c'est vrai qu'on a aussi des soutiens institutionnels pour le coup, avec des subventions, etc., et ça nécessite évidemment aussi tout un travail à deux et à trois, c'est-à-dire en lien direct et permanent avec Eve, évidemment.
Quand on arrive à la choper, hein, parce qu'elle est tout le temps en tournée.
Oui, quand elle est là.
Non, mais mon cœur est tout le temps avec eux, mais bon, je n'aime pas très téléphone. Mais bon, mais aussi, Olivier a beaucoup d'expérience aussi. Toi, tu as accompagné des artistes longtemps.
Ouais, je viens plutôt... Dans le métier, je viens vraiment du théâtre et des arts de la rue, enfin du spectacle vivant au sens large. Mais par contre, j'ai beaucoup, beaucoup pour organiser de concerts dans les milieux indie, rock, noise rock, avec une association qui s'appelle GTKO.
Ah, d'accord, mais oui, bien sûr. Voilà.
Et voilà, donc du coup j'avais jamais franchi le cap de bosser dans un milieu musical professionnel, et il faut avouer que là-dessus je rejoins complètement Charlotte sur la fraîcheur, la qualité incroyable de toutes les musiques. C'est effectivement toujours des moments assez incroyables en tournée notamment, voilà.
En ce qui concerne l'envers du décor, c'est-à-dire qu'on a, parce que je travaille aussi dans le milieu du théâtre par ailleurs, et je vois que c'est des mammouths à déplacer en tournée, mais souvent on arrive à rester une petite semaine quand même. Un orchestre, il rebouche tous les jours. Ouais. Donc la production et le travail d'Olivier Charlotte, il recommence à zéro pour la date du lendemain. Ouais. Et pour que tu sois un trio ou un 17 personnes, comme c'est le cas pour nous, dans Kogoba, et tout, c'est la même chose. Ouais. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de subventions, sinon on ne pourrait pas payer Charlotte et Olivier. Et du coup, je ne pourrais pas faire ce travail à moins de... Enfin, je pense que je serais vite à l'hosto. Et donc, tous ces petits... Voilà, comment trouver les partenaires qui croient le plus aux valeurs de l'orchestre aussi, et que tout ça mis ensemble... ça puisse continuer à toucher d'autres publics, parce qu'il ne faudrait pas que ça tourne que dans un milieu d'entre-soi non plus.
Ah non, ouais.
Donc il faut alterner entre scènes subventionnées, scènes non subventionnées, être sur tous les tableaux possibles pour qu'on se remette en question. C'était super de jouer au Parc Floral l'année dernière. Il y avait juste l'entrée du parc à payer. On a vu aussi beaucoup d'autres classes sociales se diriger au concert.
Bien sûr, mais...
Et on essaye de jouer dans un squat ou un bar entre les grosses tournées quand on peut. On bricole des petits bouts d'orchestre pour faire des Red Desert Experience au festival Umlaut, là en Ardèche, chez des copains. On se débrouille, quoi. Mais franchement, quand tout le monde est motivé, ça se passe trop bien.
Et puis alors, on te retrouve à Radio France et puis sur Radio Liberté.
Ouais, je pense que tout ça doit coexister.
Tout à fait, oui, entièrement d'accord. La compagnie Rêver est basée en Alsace.
Oui, monsieur.
Domicilié, Donc moi, pendant le Covid, j'ai réhabité dans l'Est.
Ouais, d'accord.
Et j'y suis une partie de l'année.
D'accord.
Et surtout, j'y ai vécu 25 ans. Donc, la plus grande partie de ma vie.
Bon, alors, je propose qu'on continue d'écouter la musique un peu. Là. C'est vrai qu'on parle beaucoup, t'as raison. Et on va écouter Brick, parce que je crois que c'est une des dernières sorties. Mais alors, pour le coup, c'est...
Oui, on a reporté la sortie à l'automne, mais la sortie numérique est imminente.
Ouais, c'est donc... Là, pour le coup, c'est Umlaut.
Sur Umlaut.
Et on écoute Brick, le morceau s'intitule « Tu devrais ». Et on en parle après.
Tu devrais vocaliser même mal, tu devrais articuler même mal, tu devrais sonoriser même mal, tu devrais accentuer même mal, tu devrais timbrer même mal, tu devrais faire résonner même mal, tu devrais faire sonner même mal, tu devrais souffler même mal.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, et on est dans les oreilles libres avec Eve Risser. On vient d'écouter Brick. Alors, est-ce que c'est toi qui joues de la flûte sur ce morceau?
Je suis démasqué.
Ben oui, là.
Oui, c'est le seul titre où je joue de la flûte, t'as bien visé.
Ah bah attends,
je voulais l'expliquer.
J'étais pas sûr que ce soit toi. Ah ouais, d'abord, bah, bravo, bravo, super.
Bah, c'est un hasard, il y a des gens qui me font jouer de la flûte parfois, donc là, genre le théâtre, là, sans tambour avec Samuel Achache, je joue de la flûte. Bon. Et à un moment donné, à force d'avoir ma flûte dans le bec, je me suis aperçu que c'était un instrument que je pouvais avoir n'importe où. Ah donc oui. Je me suis mis à jouer tout le temps. Les gens, ils voyaient la boîte, ils disaient « Non !»
Là, t'as pas besoin d'un semi-remorque là, pour ta flûte. Hein.
Je me suis mis à jouer tout le temps. Donc après, un jour, on a fait, ce morceau-là, j'ai sorti la flûte et ça finit comme ça.
Ah,
et je le joue dans les gens, dans le public. Je ne joue pas sur scène, ce morceau.
Ah,
je le joue à 25 mètres des autres. Et puis, c'est parce que ce groupe-là, oui. Faut dire qui c'est. Il y a Bianca Iannuzzi à la voix,
ouais.
Lucex à la basse électroacoustique. Donc Bianca d'origine italienne, qui est parisienne. Hein, moi, je l'ai rencontrée ici.
Ah d'accord. Ouais.
Lui qui vit à Amsterdam. Francesco Pastacaldi, qu'on ne présente plus.
Non.
Local
non.
De l'étape. Voilà. Quartet qui est né pendant le Covid.
Ah d'accord, alors bah, c'est ce que
j'avais... En Covid, j'ai démarré des projets non internationaux,
ouais.
Enfin presque, avec des gens avec qui on pouvait se voir.
Ah d'accord, c'est ça, ouais.
Il y a eu plusieurs projets qui sont nés comme ça, l'Orchestre La Sourde,
ouais.
qui a élu domicile dans la compagnie aussi, un troisième orchestre.
Ouais, ouais. J'ai vu, ce truc-là, là. Alors là, pour le coup, c'est un théâtre... L'Athénée Louis Jouvet.
Ouais. Au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet.
Ouais.
Un bel orchestre qui fait muter la musique de Carl-Philippe Emmanuel Bach,
ouais.
Avec des instruments du baroque au jazz. Et le quartet Brick qui est né aussi pendant le Covid.
Mais alors, est-ce que c'est de ton initiative, ce quartet?
Un peu, mais alors c'est marrant parce que Bianca, Francesco et Luc, ils s'étaient rencontrés il y a 20 ans.
Ah oui.
Et je pense que j'avais dû oublier. Et c'est sympa, je leur ai proposé de faire un quartet 20 ans après.
En demandant s'ils se connaissaient, quoi.
En me rajoutant, mais je n'avais pas du tout conscientisé le truc. Après, ah ouais, j'ai fait putain. Ok. Et ben, ouais, mais c'est vraiment le. Maintenant, c'est vraiment collectif. Hein. C'est un quartet où je fais même pas grand chose.
Qui compose alors, par exemple?
Non, mais on compose tous ensemble, mais Luc ramène des basses et on fabrique les morceaux dessus. Bianca ramène des propositions de texte, je ramène des accords, et Francesco des rythmiques.
Ben voilà.
Et parfois, on ne sait pas trop par où ça commence. On travaille comme un... Sans partition aussi.
Ouais. Super album, hein, donc je l'ai, on me l'a envoyé, donc je l'ai...
La danse du béton.
La danse du béton qui va sortir le 28 juin, c'est ça?
Ouais, en numérique, le 28 juin.
Sur Home Note encore.
Et on fera une sortie au Circuit électrique plus tard.
Ah.
Septembre-octobre.
Ah d'accord.
Ouais, parce que les vinyles sont pas arrivés.
Ah bon, d'accord. Ouais, oui.
Bon, et puis alors là, ça a fini de nous assommer.
Ah, oui, oui. Alors, on a parlé de ça, de Brick. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Alors, j'ai vu que tu avais joué avec Kim Mir dans le Sympathetic Magic, alors vu à Mulhouse en 2022, au Festival Météo. Super concert. Et maintenant, tu joues dedans. Alors, est-ce que tu es... est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que tu fais partie du groupe?
On a ce quintet avec Kim Mir, l'ensemble.
Ah, voilà, ouais.
On va jouer à Césarée, à Reims, le 4 février.
Le 8 février 2025.
Le 8 février 2024, 5. donc c'est un groupe norvégien, celui de Kim, qui s'appelle Sympathetic Magic. Et en Norvège, il y a beaucoup plus de femmes musiciennes qui font des enfants.
Ah oui.
Et du coup, j'ai remplacé un congé de grossesse, t'imagines? J'étais trop contente. Bon.
Mais tu sais qu'on en a déjà parlé de ça, hein, des grossesses, des femmes musiciennes.
Non,
des femmes avec Sophie Agnel,
ouais.
Qui disait que c'était...
C'est un truc, hein. La moyenne d'âge dans le jazz en France de grossesse, c'est 39 ans.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Mais ça doit être une moyenne faite sur 5 personnes aussi, hein, donc... bon, bref.
Là, tu remplaces quelqu'un qui est en congé maternité, c'est ça?
Ouais.
Ah bah, d'accord. Ouais.
Payé, hein.
Moi, j'espère.
Et c'est son deuxième, et elle a 12 ans de moins que moi, quoi. Non, mais vraiment, c'est un autre monde. Donc moi, j'ai bien profité, hein, parce que la quarantenaire sans enfant, ben, moi, j'avais du temps et j'y suis allée.
Et donc, ton contrat se termine au retour de cette minute.
Ouais, après, on s'était trop kiffé. Alors, je leur ai dit que s'ils tournaient en France, je voulais une priorité, mais on verra. Bon, il y a peut-être moyen qu'elle fasse un troisième. Hein. En tout cas, c'est des copains. On est allé à Victoriaville. Oh, il y avait Joël Léandre qui a joué avec Matt Maneri et Craig Taborn. C'était magique. Il y avait le groupe de Steve Lehman avec Maché Lasser, qui est un pote de Montreuil aussi. Ouais. Il y avait Sophie Agnel qui a joué, mais ça, j'ai loupé son concert, qui est de Montreuil. Il y avait trois Montreuillois à Victoriaville, ah, bah, Québec.
Pas mal de Français là-bas. Hein. Je suis allé
mais non, il y en avait que trois et c'était des Montreuillois.
Ouais, ouais, ouais. Ouais,
ouais. C'était fou. Ouais, ouais. Non mais c'est the place to be hein,
à Montreuil, pour la musique. Je sais bien quand il y a un concert à Paris ici, je précise que c'est un, Paris est la ville dans la banlieue de Montreuil.
Ouais, puis avec 90% des gens qui viennent là-bas. Ouais. Non mais c'était marrant et bah, c'était quelque chose parce que moi je fais du piano mais je peux jamais jouer dans des groupes qui jouent fort. Enfin j'aime pas trop le piano sonorisé. C'est pas là qu'il y a les plus belles qualités, quoi. Et donc ouais. Là, je jouais de l'orgue. Tu vois, l'orgue de Philippe Glass, un Yamaha, qui est une barrette qui fait toing. Et puis, j'avais un Juno. Et donc, j'avais l'impression de conduire une moto, quoi. Ouais. Eux, ils avaient 16 instruments à checker là, à l'aéroport. Il y avait en tout 7 guitares. Ah ouais. Il y avait 3 guitaristes, un bassiste, 3 percussionnistes. Et moi, j'avais 2 orgues. Donc c'était fou le sound, quoi. C'était vraiment un truc. Pardon pour les mots débiles anglais, mais c'était dans l'Amérique. Hein, donc.
Ouais, c'est dans l'Amérique, l'Amérique. Et oui, alors, Kemir, c'est pas la première fois que tu joues avec lui. Tu nous en avais parlé il y a quelques années dans The New Song, il me semble.
Ah oui, on a joué une dizaine d'années avec The New Song.
Et alors, tu as donc un autre groupe, tu l'as cité. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, L'Ensemble,
carrément. Bon, c'est un groupe qui n'a pas pu jouer pendant le Covid. Ouais. Et ben, il y a la chanteuse qui a fait 3 enfants depuis le début, donc on l'a pas beaucoup vue. Mmh. Et non, mais c'est rigolo. Mais bon, maintenant, ça y est, quoi. On s'y remet, là. Et on va sortir un album.
Ah,
et,
d'accord. Ouais.
Elle vient de Bergen, qui est donc une ville à l'ouest de la Norvège. Il y a un Roumain qui habite Amsterdam. Au violon et à l'alto, Georges Dumitrio et Thomas Gouban, le percussionniste de Saint-Nazaire et environ, et Kim et moi. Et en fait, ce sont des compos instantanées collectives. C'est aussi porté par la compagnie Rêver.
Bravo. Alors, on n'aura pas le temps d'écouter.
Voilà, trop bavard.
Non, mais voilà. Et parce qu'on va écouter aussi, on va terminer par Eurythmia. Si tu veux bien, puisque c'est quand même. Et alors,
merci Christophe.
Est-ce qu'il y a tu fais plein de choses, mais est-ce qu'il y a des choses dont tu voudrais dire 2-3 mots quand même, d'autres projets, d'autres groupes, formations?
On a dit pas mal, hein.
Ouais, hein. Il n'y a pas des trucs qui te viennent?
On a une création avec La Sourde en septembre.
D'accord.
Septembre. Et puis il y a Brick, mais on l'a dit. Putain, on a tout dit.
Alors là, je vais te demander maintenant tes dates de concert.
Bah là, les 3 soirs, 18, 19, 20, ouais. Sylvia Montfort en juin, là, ouais. À Paris, ouais. La fête de Red Desert Orchestra. Et on va jouer aussi en Ardèche, dans une fête de potes, le 28 juin, super. À Deux-Seignes, avec une formation plus afrobeat, avec la moitié de l'orchestre. Et cette moitié d'orchestre va jouer également au festival Confrontationen.
Ah ouais.
Pour les 70 ans de Hans, son directeur. Donc ça, c'est au fin fond de l'Autriche, le 27 juillet.
Super, l'Autriche, ouais.
Et ensuite, je vais essayer d'avoir des vacances, mais pas sûr, parce qu'on va écrire de la musique pour La Sourde en septembre.
La Sourde en septembre. Et quel est l'avenir de...
Il y a aussi le duo avec Naini Diabaté, La Griotte. On a un duo. On va faire une grosse tournée à Albi, donc, parce que la compagnie est rêvée. Et moi-même, nous sommes associés à la scène nationale d'Albi pour plein de projets ces 2 prochaines années, ainsi que la cité musicale de Metz où il y a plusieurs projets, donc vous checkez les programmes donc avec Naini Diabaté beaucoup.
Toutes les dates de concert sont sur ton site,
sur mon site evryserre.com et puis sur les réseaux sociaux
qui est très 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 bien, très 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 bien. Est-ce qu'il y a des prochaines idées de répertoire pour Eurythmia, pour Red Desert Orchestra, pardon.
Bah ouais, on espère que en juin là, ça va nous donner de quoi nous projeter sur un nouvel album. Et ensuite, moi je vais continuer avec ouais. Peut-être on va plus aussi faire de concerts avec cette moitié de groupe en formation club. Donc il y aura les deux choses qui vont jouer en même temps. Ça va être marrant. On a une tournée avec Kogoba Basigi, là, l'orchestre avec les Maliennes, qui sera début février. Et Charlotte va dire...
Le 1er février... Alors attends, notez ça, mais vraiment au marqueur, parce que c'est rare et c'est loin. Le 1er février à Brest, à la Carène, et le 4 février à Quimper. Et soyez très attentifs au cas où il y aurait une petite surprise qui se glisse entre les dates.
Très bien. Bah, merci Eve.
Merci infiniment à toi.
Alors si, quand même, attends, il y a un dernier truc, on va écouter, on va terminer par...